Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Peut-être vous vous demandez où va le monde. Moi, en tout cas, je me pose la question. Et c'est pour ça que je reçois Guy-Philippe Goldstein, que j'ai déjà reçu sur mon podcast, mais on va cette fois-ci parler de science-fiction et comment la science-fiction peut nous amener à nous poser les bonnes questions ou à envisager le futur à 20 ou 30 ans. Je trouve que c'est un sujet qui est évidemment essentiel. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a fait la remarque sur le compte Instagram du podcast et qui m'a posé la question. Et du coup, j'ai décidé de recevoir Guy-Philippe pour cette raison. Donc, si vous aussi, vous vous posez des questions, s'il y a des sujets que vous aimeriez traiter, le meilleur endroit pour le faire, c'est encore le compte Instagram du podcast qui s'appelle VLAN Podcast, tout attaché. Donc, VLANPODCAST. Donc, rejoignez-nous là-bas. Et comme ça, on pourra beaucoup mieux, je pense, interagir. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis avec Guy-Philippe Goldstein, que j'ai déjà reçu sur ce podcast. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent. On va parler un peu de ta passion, finalement, ou ce qui t'a amené à ton métier, qui est la science-fiction. Et en fait, autant se le dire tout de suite, moi je suis pas un passionné de science-fiction, j'y connais pas grand-chose en réalité. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on est dans une société qui bouge énormément. Il y a Lévy qui dit qu'on passe à travers 5 révolutions parallèles. Et du coup, comme il y a énormément de choses qui bougent, ça devient très compliqué d'envisager le futur ou d'envisager comment les choses vont bouger. Et ce que j'ai vu et qui m'a intéressé, c'est que des marques comme Nike ou Boeing payaient des écrivains de science-fiction pour prévoir leur futur. Comment ils vont pouvoir avoir comment ils vont pouvoir s'envisager dans les années à venir. Et là, du coup, nécessairement, j'ai pensé à toi.
T'as bien fait.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement son métier, donc j'aimerais bien qu'on en parle ensemble parce que je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que, alors, on peut penser à comment, par exemple, le film Minority Report a eu des impacts sur tout ce qui est le toucher sur son écran, mais on voit aussi par exemple quand on regarde Black Mirror ou Westworld, on envisage ou on a peur, etc. Je voudrais que toi tu nous expliques, enfin peut-être la première question, c'est raconter un peu ton histoire, c'est-à-dire comment t'es passé de la science-fiction à la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer ça dans un premier temps?
Alors, avec grand plaisir. C'est une histoire un petit peu rigolote, en fait. Il y a pas mal de temps, on va dire, il y a 20 ans, en fait, j'ai été très marqué par ce qui commençait à émerger, à la fois dans la littérature un petit peu scientifique de questions de sécurité nationale et sur les questions de cyberdéfense, cybersécurité, ou ce qu'on appelait encore un petit peu à l'époque la guerre des hackers, hacker warfare. Il y avait un papier de chercheur de la Rand Corporation, John Arkila, en particulier, qui s'appelait « Cyber War is Coming ». Et ça m'avait beaucoup frappé. Et puis alors, pour dire les choses, mais pour te montrer le lien avec le sujet, comme peut-être beaucoup de gens à l'époque, j'ai été très marqué par Terminator 2 et Skynet. Voilà, la puissance d'un système informatique qui serait capable, parce qu'il contrôle des armements du Pentagone, de déclencher lui-même la guerre. Bon. Et là-dessus, ça a un petit peu commencé à carburer dans mon cerveau. À une époque aussi, pour des choses, je me souviens, c'était il y a 20 ans, c'était en 96, en Israël. J'étais là pour un stage, donc je m'ennuyais pas mal. Et j'ai commencé à écrire un roman qui a fini par sortir 11 ans plus tard, parce que je suis très lent, et qui s'appelle Babel Minute Zéro. Et qui était une forme de fiction un scénario sur un cyberconflit entre la Chine et les États-Unis, avec son cœur un agent du renseignement américain, une femme senior d'une quarantaine d'années qui s'appelle Julia O'Brien, où en gros elle se rend compte rapidement qu'un conflit sur base de cyber entre la Chine et les États-Unis risque de dégénérer assez rapidement, et elle doit prévenir son ancien amant et contact à Washington DC, qui n'est autre que l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Bon. Mais surtout derrière ça, il y avait l'idée d'explorer ce que pouvait être un cyberconflit. Il faut croire qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de fiction autour de ça. Je sors le bouquin en 2007 en France. En avril 2007, juste quelques semaines ou presque au même moment où il va y avoir le premier type de cyber-guérilla, cyber-conflit entre la Russie et l'Estonie. Je crois que c'était Wired qui avait appelé cet épisode-là Web War One. Et donc on est un petit peu frais. Et puis le bouquin sort en France où il y a une audience intéressée, où c'est marrant parce que le public français, en tout cas la critique française, regarde beaucoup l'aspect Chine, puissance émergente. On est en 2007, hein. Donc ce qui était déjà à l'époque le grand atelier du monde pouvait peut-être commencer à se transformer en grande puissance, qui est avéré aujourd'hui. Et on n'avait pas beaucoup finalement évoqué la question de fond du bouquin, qui est celle de cet armement cyber. Et puis, deux ans plus tard, il y a des gens du MIT, une personne qui malheureusement est décédée depuis, du Computer Science Artificial Intelligence Lab, qui me contacte parce qu'il a entendu parler du bouquin, à ma grande surprise. Il est français, je lui envoie, et on commence à échanger sur ces questions cyber, parce qu'on est aussi à une époque où, chez les Américains et peut-être ailleurs, on se rend compte qu'effectivement, ce type d'armement risque de changer un petit peu la donne, et peut-être qu'on a besoin d'un peu de scénario pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis alors, deux ans plus tard, on est le bouquin sort en Israël en 2010, et en 2011, sur Facebook, il y a une jeune demoiselle en bikini et un petit monsieur barbu qui m'interpelle, et je regarde qui est le petit monsieur barbu, et en fait, c'est... à l'époque le chairman de l'agence spatiale israélienne et aussi du Conseil national pour la recherche et développement, donc je me dis c'est bien, on se fout de ma gueule, on fait une blague, mais en fait effectivement on me demande de venir parler en Israël pour ce qui est à l'époque la première conférence sur la cyberguerre. Et là je me rends compte que mon bouquin a une certaine audience en Israël, en particulier auprès des personnes qui s'occupent, on va dire, de façon professionnelle des questions de cyberdéfense, jusqu'au niveau du Premier ministre Netanyahou, que je rencontre, et qui apparemment avait lu le bouquin. Alors j'étais évidemment, tu peux l'imaginer, un petit peu surpris, mais je pense que, en fait, le livre est arrivé à un moment intéressant, important en Israël, où on avait saisi depuis pas mal de temps l'importance de ces questions de cyberarmement, mais on s'était posé effectivement la question de quel degré d'importance donner à cet univers-là. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est super stratégique? Et donc, le professeur barbu que j'évoquais, en fait le professeur Yitzhak Ben Israël, avait été en charge à l'époque par le Premier ministre de mener une task force sur la cyberdéfense, la question de la cyberdéfense, et d'ailleurs de cela a découlé plusieurs décisions en termes de création d'institutions, d'investissements sur le cyber, mais Ben Israël avait donné à lire donc mon petit roman traduit en hébreu à Netanyahou. Je pense que l'idée, c'était essayer d'embarquer un petit peu même l'imaginaire donc d'un dirigeant pour bien essayer de se rendre compte de quoi il était question. Bon. Et voilà. Et à ma surprise, effectivement, le bouquin a pas mal circulé en Israël dans ce public-là. Et encore, cet été, en juin, pour Cyber Week, donc je t'avais parlé de la première conférence sur la cyberguerre qui durait à l'époque... à peine une journée. Alors aujourd'hui, c'est 5 jours. Il y a les plus grands dignitaires américains, européens, etc. Moi, quand j'y vais, je suis plus du tout sur le super podium. Je suis relégué dans un fond de salle. Mais à nouveau, Netanyahu a évoqué, parce qu'il a reparlé de pourquoi, il y a 7-8 ans, ils se sont vraiment posé cette question des cyberconflits. Et parmi toutes les choses qu'il a pu voir à ce moment-là, évidemment le rapport que lui avait donné Ben Israël, les choses qu'il a peut-être pu voir des unités 8-200 et autres en Israël, bah, il a évoqué un roman de fiction qui lui avait permis voilà, de se projeter un petit peu et de voir qu'effectivement les choses pouvaient être beaucoup plus dures à cause de ce type de nouvelles armes.
Et alors ce qui m'interpelle en fait, c'est de comprendre pourquoi des boîtes comme Pricewaterhouse ou que le MIT recommandent aux plus grandes boîtes d'aller vers des auteurs de science-fiction pour prédire, entre guillemets, l'avenir. Comment ça se fait que des auteurs puissent mieux envisager l'avenir que des experts, en fait?
Alors, je ne sais pas si les auteurs peuvent mieux envisager l'avenir, mais je dirais qu'ils envisagent plus d'avenir. Et que d'une certaine façon, l'auteur de fiction est une forme de réservoir d'hypothèses. Et là-dessus, c'est très intéressant pour essayer justement d'investiguer ces hypothèses. Je te donne encore une fois une petite expérience personnelle. Hein. Donc quelques années plus tard, en 2015, il y a un think tank qui s'appelait Data and Society, qui est financé par Microsoft et la Fondation MacArthur, qui m'a demandé d'écrire une petite nouvelle sur le futur de la guerre, qui serve de base de discussion après avec des analystes, des experts de la Fondation MacArthur, du CNRS. Bon, moi j'avais travaillé, donc on a fait ça sur une grande après-midi sur le futur de la guerre. Il y avait d'autres auteurs de fiction qui étaient venus pour écrire, l'un une fiction sur le futur de la ville, l'autre sur le futur de la médecine, l'autre sur le futur du travail. Et à chaque fois, l'idée était la même. On utilise l'imagination de l'auteur pour essayer d'identifier des hypothèses, des questions de recherche qui vont être après la base pour peut-être des réflexions, c'est-à-dire plus structurées. Et ce que je te dis là, moi, évidemment, ça m'a beaucoup surpris. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu dans l'histoire, dans le passé, y compris dans l'histoire militaire, s'il y avait déjà eu ce type de cas. Si tu veux, il y a un exemple assez frappant d'une personne qui a une influence extraordinaire et qui est un auteur de fiction. Le concept, par exemple, de la bombe atomique, l'expression de la bombe atomique, qui est fondamentale aujourd'hui dans nos relations internationales, ce n'est pas une expression qui a été créée ni par un scientifique, ni par un militaire, ni par un politique. Le terme de la bombe atomique a été créé par un auteur de fiction, peut-être l'un des plus grands auteurs de fiction et de science-fiction, H.G. Wells, dans un bouquin de 1913, The World Set Free, où, pour la première fois, il évoque cette nouvelle capacité de destruction. Alors, évidemment, il n'a pas toutes les connaissances techniques de l'époque. C'est pas l'uranium, c'est du carolinium. C'est projeté par une petite grenade et ça fait une explosion qui ressemble à une explosion classique, sauf que ça ne s'arrête jamais. Bon. Mais l'idée qui est derrière, et ça c'est très important dans l'utilisation qui est faite de la science-fiction, c'est non pas la technologie en tant que telle, même s'il y a une vague évocation de ce que ça peut faire, mais l'impact sur la société des humains. Et dans le bouquin de H.G. Wells, eh bien, ça va totalement transformer la donne au niveau des relations internationales. Ce qui est effectivement ce qui s'est passé à partir de 1945 de Hiroshima et Nagasaki. Et pour te donner l'importance que peut avoir parfois une bonne intuition, c'est parce qu'il y a eu ce livre-là que, une dizaine d'années plus tard, Churchill, au Parlement, au milieu des années 20, commence à réfléchir sur l'utilisation militaire de l'armement atomique, et que même des scientifiques comme Léo Szilard, qui va participer au